Alors, tout de suite, j'ai hâte de parler avec Oanne Nguyen, qui est conseillère en accessibilité universelle chez AlterGo. Bonjour, Oanne.
Bonjour, Hélène.
Bienvenue à Canalem, Oanne. C'est votre première chronique chez nous?
Oui, c'est ma première chronique. Je suis un peu nerveuse.
Non, ça va bien se passer, je suis certaine. Ça paraît pas, vous auriez pas dû le dire, mais c'est pas grave, on est avec vous. Alors, Oanne, on commence par la base. Hein. Qu'est-ce que la communication accessible?
En fait, avant même de parler de la communication accessible, je voudrais juste vous parler un peu de la littératie, qui est la capacité d'une personne à comprendre et à communiquer de l'information par le langage, alors des textes écrits, des choses comme ça. Ça se fait bien via le biais de différents supports, puis c'est nécessaire pour participer activement à la société dans différents contextes. Donc, juste... Je vais pas faire ça trop long là, pour les statistiques. Je vais vous donner juste une statistique pour pas que ça soit trop plate. Donc, au Québec, par exemple, on parle que 53% de la population qui est entre 16 et 65 ans, ont la difficulté avec la lecture. Donc, c'est énorme. C'est plus de la moitié de la population. Donc, la communication accessible est un principe qui est très important parce qu'on parle ici de rendre les informations compréhensibles et utilisables pour tous. Donc, peu importe le niveau de littératie, peu importe les capacités physiques, les capacités cognitives ou même sensorielles. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la communication accessible. Par exemple, je vais juste donner quelques exemples. Certaines personnes ne peuvent pas lire parce qu'elles ne voient pas. Certaines personnes n'entendent pas, donc elles n'ont pas accès à toute l'information sous forme audio. Il y a aussi les personnes qui ont de la difficulté à comprendre les informations qui sont complexes. D'autres qui maîtrisent pas bien le français parce qu'ils viennent d'un autre pays où on parle une autre langue, par exemple. Dans l'exemple de ma famille, on est la première génération de Boat People. Donc, le français, c'était vraiment pas notre langue maternelle en arrivant. Donc, toutes les informations qu'on recevait, il fallait que ça soit très simple, les phrases courtes et tout ça.
Alors, c'est au Québec que toi, Oanne, que tu as appris le français, j'imagine.
Oui, oui.
T'es arrivée ici et tu ne parlais pas le français.
Non, pas du tout. Donc, j'ai appris ici, j'ai même appris la différence entre froid et frais. Donc, mon niveau est mon niveau est pas mal de ce côté-là. Donc, pour ce qui est, ça, c'est pour les gens qui sont les personnes immigrantes, par exemple. Puis certaines ne sont pas capables de s'exprimer oralement. Donc, ils ont des difficultés avec le langage. Alors, ces personnes-là peuvent communiquer grâce à des images ou des pictogrammes. Et puis si on parle un petit peu plus par rapport aux limitations motrices, bien, certaines personnes ont tout simplement de la difficulté à manipuler des documents imprimés. Donc, l'accessibilité de la communication, ça englobe tout ça. C'est vraiment un enjeu qui, comme vous pouvez le voir, qui touche vraiment une grande partie de la population. On ne parle pas seulement d'une limitation fonctionnelle, mais vraiment toutes sortes de besoins. Et en plus, qui est dans la société moderne aujourd'hui, l'information, on en trouve partout, que ce soit dans nos échanges interpersonnels, dans les médias, sur Internet, dans les publicités, à la radio, dans les livres, dans les journaux, etc. En fait, le monde est communication. On peut rien faire sans être devant une information qu'on a besoin de comprendre pour fonctionner. Donc, le flow d'informations est continuelle et très abondant dans notre vie quotidienne. Il est essentiel pour chacun pour pouvoir comprendre et traiter ces informations-là de manière efficace. Et surtout, je voudrais mettre l'accent là-dessus, c'est de manière autonome aussi, de ne pas constamment avoir besoin de quelqu'un à côté pour nous expliquer ce qu'on est en train de lire, ce qu'on est en train d'écouter et toute l'information qui nous est donnée. Donc, on parle ici pour... on peut avoir besoin de comprendre que ça soit juste pour le loisir, par exemple, le travail ou le développement personnel, parce qu'on a envie de lire sur les diètes ésotériques ou peu importe, quand on fait l'épicerie, quand on fait notre magasinage en ligne et dans des situations d'urgence aussi. On l'a vu, par exemple, dans le cas de COVID, durant la pandémie, que l'information était extrêmement importante pour savoir ce qu'on devait faire. Alors, il est essentiel qu'on puisse avoir accès à l'information sans avoir besoin d'aide de quelqu'un, sans dépendre de quelqu'un. Et avoir accès à l'information, c'est d'abord être en mesure de trouver aussi l'information. c'est sûr que si on ne trouve pas ce qu'on cherche, et ce sera très difficile de fonctionner à ce moment-là. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut la lire et finalement la comprendre. On ne parle pas seulement de l'accès à l'information d'un point de vue technique, mais également de la compréhension de cette information-là. Puis dans un monde où l'information est la clé d'une bonne participation active à la société, il est super important que la communication soit la plus inclusive possible.
Alors maintenant qu'on est plus que convaincu, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, Anne, quand on veut rendre l'information qu'on diffuse plus accessible?
Il faut évidemment que le contenu soit accessible, logiquement, c'est-à-dire que l'information et que le message soient faciles à comprendre. Je vais vous donner quelques trucs simples. Par exemple, est-ce que le message est rédigé de manière concise? Avec un vocabulaire qui est commun, qui est utilisé tous les jours. Est-ce qu'on utilise des temps de verbe simples comme le présent, l'imparfait, le passé composé, le futur simple? Est-ce qu'on s'est assuré de ne pas utiliser des mots abstraits, des métaphores ou des figures de style? Ce sont juste quelques points à considérer lorsqu'on veut rendre la lecture de l'information plus accessible au plus grand nombre. Attention ici, je ne parle pas qu'il faut qu'on élimine toute forme de poésie, que c'est dorénavant interdit. Il faut juste de faire des choix de rédaction, en fait, dépendant de la clientèle qu'on cherche à cibler. Par exemple, si on écrit pour une clientèle qui serait autiste, par exemple, on évite tout ce qui est trop abstrait et les métaphores. Donc, si vous écrivez « il pleut des cordes », il est possible que la personne qui lit ça ne comprenne pas que c'est une image. Donc, c'est important à ce moment-là de juste dire qu'il pleut beaucoup.
Ouais.
Ça, c'est quand même un petit exemple.
Être conscient de notre public cible, à qui on parle, c'est la question qu'il faut se poser.
Oui, c'est sûr que si vous rentrez dans un club des grands fans de Baudelaire, allez-y avec la poésie, il n'y a aucun problème. On parlera aussi de la vulgarisation. Évidemment, on ne peut pas parler d'accessibilité sans parler de vulgarisation. Surtout pour l'information qui est plus complexe, tout ce qui est science, des choses comme ça, il est important de la simplifier si on veut être sûr que les gens comprennent. La vulgarisation, selon moi, ça permet aux gens de développer un intérêt pour différents sujets qui seraient autrement inaccessibles à cause de leur complexité, puis aussi on est tous un peu experts dans différents domaines, puis on utilise des jargons qui sont spécifiques. Et des fois, quand on parle à des gens qui ne sont pas initiés, ils ne nous comprennent pas nécessairement. Donc, on veut vulgariser, on essaie d'éliminer le jargon spécifique puis de remplacer par le vocabulaire qui est utilisé tous les jours. C'est pas pour rien, par exemple, que les grands vulgarisateurs, comme il faut que ça me revienne, la chaîne YouTube Kurt Kazak, ou même Neil deGrasse Tyson, qui sont si populaires, parce que rendre des concepts abstraits, complexes, accessibles est un art en soi. C'est rendre ça intéressant, rendre ça facile à comprendre. Et ça permet à une population non initiée d'avoir accès à l'évolution constante des connaissances et de cultiver de la curiosité pour des sujets qui sont normalement, en parenthèse, là, réservés pour les experts.
Alors, Oanne, vous abordez le contenu, mais il faut aussi penser au contenant, j'imagine?
Oui, on peut parler du contenant. Je voudrais juste avant faire une petite parenthèse sur un type d'écriture qui est très populaire ces temps-ci.
Oui.
Vous avez probablement déjà entendu parler de l'écriture inclusive.
Mm-hmm.
Tout ce qui est l'écriture épicène, tout ce qui est neutre. Alors, c'est juste pour ceux qui ne sont pas vraiment familier avec ça, c'est un style d'écriture qui abandonne le masculin générique et la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Le truc que j'ai appris et que j'ai dû comprendre quand j'ai appris le français. Et ce type d'écriture-là, ça peut générer des enjeux d'accessibilité, en fait.
Ah oui.
Ouais. Alors, l'une des formes qui peut poser un problème, c'est la forme des abréviations inclusives. C'est une forme qui peut causer des problèmes de lecture pour certaines personnes qui utilisent le lecteur d'écran ou des personnes dyslexiques. Il y a des manières pour rendre ça plus accessible en utilisant le doublet, comme par exemple dire carrément « les citoyennes » et « citoyens » plutôt que d'utiliser les abréviations avec les points. On peut utiliser les mots neutres aussi, comme « partenaire, adulte, bibliothécaire », que ce soit en féminin, masculin, c'est la même chose. Puis, il y a finalement les formules englobantes, c'est-à-dire au lieu de dire, par exemple, la directrice et le directeur, on dirait la direction. Par contre, la direction peut être un concept trop abstrait pour certaines personnes. Donc, l'écriture épistolaire peut donc causer un souci d'activité par moment. Donc, il faut être prudent un petit peu.
Oui, pour que ça ouais. porte bien son nom, que ça soit vraiment inclusif.
Oui, puis comme vous pouvez le voir, la communication est un sujet comme super vaste. Je peux m'éterniser vraiment beaucoup, je m'excuse.
Non, mais c'est beau, c'est intéressant. Puis, Joanne, je pense qu'on va faire la chronique en deux parties parce qu'il nous reste 2 minutes pour aborder le contenant.
Oui, donc rapidement, la présentation d'information est importante aussi. Puis, pour qu'on puisse lire l'information. Donc, même quand nous, on n'a pas de limitation, si on a un document qui est bien aéré, bien organisé, c'est beaucoup plus facile pour nous de lire. Le choix de la police est important. Le choix le contraste de couleurs aussi pour aider à lire. Mm-hmm. Et le fait que ça soit bien organisé, c'est vraiment important. C'est fou. J'ai tellement de choses à dire, mais il y aurait juste 2 minutes. Donc,
non, mais prenez le temps de dire ce que vous avez à dire, puis oui. on prendra un rendez-vous pour une deuxième chronique si ça vous intéresse, maintenant oui, que oui. vous avez brisé la glace.
Oui, merci beaucoup. Donc,
on est dans le contenant?
Oui, dans le contenant. Donc, malgré tous les efforts qu'on peut faire dans une communication plus classique, parfois, il n'est pas possible de rejoindre tout le monde et on doit faire appel à ce qu'on appelle aussi les médias de substitut, tout ce qui est technologie adaptative et autres moyens pour rendre la communication accessible. Mm-hmm. Donc là, je vais passer au travers rapidement pour pouvoir en parler plus la prochaine fois. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler des interprètes en langue des signes, par exemple, durant les événements, ouais. L'utilisation des sous-titres pour que ça soit durant une diffusion web ou une émission télévisée. Et il y a une petite note intéressante que je vais faire rapidement sur le langage, la langue des signes et le sous-titrage. Les personnes sourdes ne connaissent pas nécessairement la langue des signes et le contraire aussi. Certaines personnes sourdes, leur langue maternelle, c'est la langue des signes. Alors, tout ce qui est sous-titrage et tout ça, c'est peut-être pas adapté à leurs besoins. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important d'avoir les deux.
Alors, Juan... Oui. Owen Nguyen, merci de nous avoir sensibilisés. On l'était déjà, mais on l'est encore plus oui. vis-à-vis la communication accessible. Et peut-être que la prochaine fois, on pourrait parler d'accessibilité du web, l'accessibilité des médias sociaux. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et pour une première oui. chronique, là, je vous lève mon chapeau.
Je vous remercie beaucoup pour votre accueil.
Au plaisir, Owen.